carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
L'année 2010 qui vient de s'écouler est presque une année monnaie, tant les expositions et les manifestations artistiques consacrées en France cette année à l'œuvre du peintre ont été nombreuses et exceptionnelles. Elles constituent en soi un événement culturel d'envergure qui mérite de nous interroger sur qu'est-ce qui fait la modernité de Claude Monet et l'engouement du public pour son œuvre. Alors peut-être un chiffre, un seul, le 21 janvier 2010, près de 846 000 personnes s'étaient pressées pour admirer les toiles du maître de Giverny en provenance des musées et des collections du monde entier au Grand Palais à Paris. Et avec nous, aujourd'hui à Canal Académie, Pascal Bonafou, historien d'art, professeur à l'Université de Paris 8, auteur de plusieurs livres sur Van Gogh, sur Rembrandt, sur Renoir, mais aussi de plusieurs livres sur Monet, dont une biographie très vivante qui est parue là en septembre 2010, Monet, qui trace en 600 pages le portrait de l'artiste au travail, de ses doutes, de ses découragements, de tous ses déboires financiers, de ses rencontres et de ses échanges avec ses pères et ses frères en peinture. Vous avez également publié un autre livre en septembre qui s'intitule « Monet, peintre de l'eau », tant le thème de l'eau est important chez Monet. Et avec nous également aujourd'hui un peintre, le peintre Jean Cortot, membre de l'Académie des Beaux-Arts, poète, qui propose dans son œuvre une symbiose entre peinture et écriture. Élève d'Othon Friez et fondateur du groupe Échelle, son graphisme original l'a conduit à quitter le figuratif pour l'abstraction, en traduisant en termes picturaux son goût prononcé pour la poésie et la philosophie. Son admiration pour Monet, son œil de peintre et son écoute nous seront précieux au cours de cette émission. Messieurs, bonjour.
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 Pascal Bonafou, comment est-ce qu'on peut expliquer cet engouement du public ?
Il y a de multiples raisons. La première, c'est peut-être, parce que je ne vais pas toutes les énumérer, vous le devinez, mais la plus importante, la plus décisive, c'est peut-être l'extraordinaire malentendu qu'il y a autour de la personne de Monet et de l'impressionnisme d'une manière plus générale. À savoir que l'on croit, que l'on veut croire que l'impressionnisme et que Monet en particulier, puisqu'après tout, c'est l'une de ses toiles, Impression Soleil Levant, qui va donner le nom de ce mouvement, hein, malgré lui, malgré eux. Il se trouve donc qu'on est porté à croire trop vite que ce mouvement était un mouvement révolutionnaire dans la peinture, ce qui n'est en l'occurrence pas du tout le cas. Je m'explique. Nous sommes ici à l'Institut, dans les locaux de l'Institut, il suffit de traverser la Seine par la passerelle des arts, ce qui n'est pas complètement indifférent, pour se retrouver au Louvre. Or, on le sait, d'une manière claire et nette, il vient au Louvre très souvent pour de multiples raisons. En particulier aussi, ce qui surprend un tout si petit peu lorsqu'il fait la demande de la permission de copier, hein, pour aller sur la colonnade et peindre la Seine depuis la colonnade, et puis le jardin de l'Infante qui est à côté. Bon, on ne comprend pas très bien, mais enfin, malgré tout, lorsqu'il vient, il s'arrête toujours devant des peintures, et il n'y en a pas beaucoup à l'époque au Louvre, du XVIIIe siècle. Et des années plus tard, lorsqu'il se promène dans le même musée du Louvre avec son ami ô combien fidèle qu'est Clémenceau, Clémenceau lui dit « Tiens, moi, je partirais bien avec telle toile. » Et Monet immédiatement de rétorquer « Non, moi, je partirais avec l'embarquement pour Cythère de Watteau. » Ce qui veut dire que cette peinture de Monet, comme celle donc de Renoir, de ses pères que vous avez cité tout à l'heure, bien, il se trouve qu'elle est d'une certaine manière l'héritière de la peinture française du XVIIIe siècle, de Watteau, de Fragonard, de Boucher, qu'elle a cette extraordinaire à la fois subtilité et lumière. Et que c'est ça qu'ils vont développer de manière démultipliée. Aussi parce que, imaginez, une chose qui est claire et nette, et ça, c'est pas l'affaire d'un malentendu cette fois, c'est que Manet, le premier, et Monet dans la foulée, parce qu'il va s'empresser de relever le défi du déjeuner sur l'herbe. On n'en a plus malheureusement que des petits bouts, entre guillemets, du déjeuner sur l'herbe de Monet. Va relever ce défi. Et que donc, du même coup, avec lui, définitivement, c'est la vie moderne qui va rentrer en scène, qui va devenir le sujet de la vie quotidienne. Et puis, il est plus que probable qu'aujourd'hui, avec le sentiment général que les uns et les autres éprouvent dans la vie quotidienne, la peinture de Monet, qui a cette puissance de vie, cette puissance de lumière et en même temps ce charme, entre guillemets, un peu désuet, il s'agit quand même de la deuxième moitié du XIXe siècle, excite un tant soit peu la nostalgie de tout un chacun. Si vous ajoutez déjà ne serait-ce que ces deux premières raisons, ça invite beaucoup de monde à aller voir de près une exposition, des expositions comme celles qui ont été présentées ces derniers temps.
Est-ce que vous pensez que notre regard est fait à la peinture de Monet? C'est-à-dire qu'on a, par exemple, c'est une peinture populaire qui a un succès depuis plusieurs décennies. Est-ce que le public n'a pas inconsciemment des codes visuels qui lui permettent de lire cette peinture, de la voir, de l'apprécier, plus que d'autres peintures? Je trouve que le public s'est peut-être aussi approprié cette peinture.
Ah, méfiez-vous.
Alors?
Il y a plusieurs Monets. Il y a un Monet au début de sa carrière qui est encore, aux yeux bien évidemment, des autorités de l'époque, parfaitement insupportable. Parce qu'il est dans la foulée, pour cause, de Manet. Hein, et que bon, la dame à la robe verte, qui est la première grande apparition qui soit la sienne au salon, elle veut quand même grincer quelques dents. Et donc toute cette première période où il va mettre en scène et peindre des scènes de la vie quotidienne. Et ça, en effet, tout le monde se l'est approprié. Tout le monde l'a pris en compte. Mais, la grande nouveauté, l'extraordinaire puissance de la peinture de Monet, elle se développe véritablement à partir du moment où il fait l'acquisition de Giverny. Donc il s'y installe en 83, quelques années plus tard, enfin, il a l'argent pour acheter la propriété, pour y installer son bassin et la chose extraordinaire. Et là, il n'y a pas dans l'histoire de la peinture de précédent. Il est le premier peintre de l'histoire de la peinture à inventer, à créer son motif. C'est quand même stupéfiant. Personne n'a fait ça auparavant. Et une fois qu'il aura donc développé ce bassin, avec le bassin, si je veux dire presque avec la complicité de ce bassin et de ce jardin, il va composer une peinture au-delà des séries qu'il a déjà faites auparavant, hein, sur les meules. Il suffit de le sortir de la maison de Giverny, d'aller dans les champs voisins, etc. Ce qu'il a fait dans la Creuse, etc. etc. Bon, ce qu'il a fait avec les peupliers, il va même jusqu'à les racheter parce qu'il risque d'être abattu et qu'il est hors de question qu'on lui enlève son motif. Donc, ce qu'il va développer là, ça va être, et pour cause, sans comparaison. Et toute la dernière partie de l'œuvre de Monet, qui se développe avec pour seul thème ce qui va être donc ce bassin de Giverny. C'est là, à un moment, il va développer une peinture qui, au bout du compte, prend ses distances de manière fabuleuse avec un, entre guillemets, motif. Et
oui,
ça, je ne suis pas sûr que le public
vous
soit...
Vous pensez que le public n'y est pas sensible?
Écoutez, en visitant le musée Marmottan Monet, hein, j'y étais à plusieurs reprises, vous le devinez. Dans la salle du sous-sol, il y avait toute une série de vues du pont japonais et puis de l'allée principale du jardin qui mène vers la maison. J'ai entendu des réflexions, mais de quoi s'agit-il? C'est encore de Monet, ça?
Parce que là, c'était des peintures aussi de la fin de sa vie.
Oui, mais c'est dire qu'elles troublent toujours.
Elles troublent toujours, bien sûr.
Et qu'elles ont toujours ce pouvoir de d'étonner, mais... de déconcerter, peut-être aussi de gêner certains.
Il y a un Monet attendu, un Monet que tout le monde connaît. C'est de celui-là, en fait, dont je voulais parler pour commencer. Celui qu'on partage tous, celui qu'on a vu sur des boîtes de chocolat quand on était petit, et qu'aujourd'hui on voit au musée, parce qu'il y a eu une multiplication de ces manifestations et de ces expositions en un nombre absolument ahurissant. Rien que le festival cet été Monet en Normandie, a lancé 200 manifestations culturelles autour de l'impressionnisme. Donc c'est vraiment une année Monet. Alors on redécouvre plusieurs Monets. Vous aviez commencé tout à l'heure à parler du peintre de Giverny, puis aussi du peintre de ses débuts. Qu'a-t-on appris ces dernières années, justement, au niveau de l'histoire de l'art, de l'œuvre de Monet?
Jean Cortot en parlerait mieux de moi. C'est que Jean Cortot est en l'occurrence peut-être un des héritiers de Monet, d'une certaine manière.
On a redécouvert récemment l'importance de la Normandie, de tous ces séjours en Normandie de Monet dans son œuvre, qu'on avait un petit peu oublié par rapport à la période des Nymphéas, pour faire simple
et
schématique.
Fait. Tout à fait. Alors, il se trouve, si vous voulez, que Monet aussi passait pour un peintre parisien parce qu'il a pris la Seine pour motif et que, trop souvent, la Seine, c'est Paris. Et que et pour cause, il a peint la Seine à Paris aussi, il y a eu ce malentendu. Bon. Mais vous avez raison. Mais la Normandie, elle occupe une place décisive dans l'œuvre de Monet, pour plein de raisons. La première, D'abord parce que, même s'il est né, lui, à Paris, il se retrouve être élevé au Havre. Et c'est au Havre qu'après être un gamin qui, bon, disons au lycée, pas vraiment le plus brillant qui soit, hein, mais ses professeurs reconnaissent un talent, il est caricaturiste. Et les profs regardent les caricatures et se disent, tiens, plutôt
et il
bien.
En vit au début au Havre, c'est comme
exactement.
Ça qu'il se lance.
Voilà.
Et il part avec son pécule à Paris.
Oui, mais attendez, la chose extraordinaire, c'est qu'avant de partir avec son pécule, les dessins, les caricatures qui sont les siennes sont exposés dans la vitrine d'un encadreur du Havre. Et à côté, il y a des petites peintures qui lui répugnent un tant soit peu. Hein, et qui sont d'un certain, comment s'appelle-t-il déjà, Eugène Boudin. Hein, bon. Puis un jour, il rentre par inadvertance dans la susdite boutique. Et là, dans la pénombre, au fond, il y a Boudin. Et Boudin est un tel charme, une telle générosité, une telle gentillesse que Monet finit par accepter de l'accompagner pendant l'été. Et c'est avec Boudin qu'il va découvrir ce qu'est la peinture en plein air. Ça, c'est fondateur, fondamental. Et bien sûr, les premiers grands motifs qui vont être les siens, c'est la Manche d'un côté, c'est l'estuaire de la Seine de l'autre, le port du Havre étant là, à portée de main. Et donc, ça, c'est vraiment une expérience fondatrice pour Monet. Et puis, finalement, l'essentiel de son œuvre, ça va être les falaises de Pourville, ça va être celle d'Étretat, ça va être la façade de la cathédrale de Rouen, ça va être les peupliers au bord de l'Epte, hein, etc., etc. Donc, le creuset de l'œuvre de Monet, le creuset essentiel de l'œuvre de Monet, c'est en effet la Normandie. C'est là, dans la lumière de la Normandie, qu'il va véritablement développer toute son œuvre. Or,
trouver son écriture,
Et ce qui est, me semble-t-il, extraordinaire, et dont il va prendre conscience quand il va justement prendre ses distances par rapport à cette Normandie. Il explique une chose merveilleuse quand il est cette fois en Norvège. Et le soir, alors qu'il est dans un paysage de neige absolue, hein, c'est du blanc sur du blanc, éventuellement avec des reflets de blanc, hein, c'est tout.
On voit ces toiles au musée Marmottan, enfin dans l'exposition qu'on peut encore voir là, jusqu'au 27 février.
Et donc, il n'est pas déconcerté, mais il explique un soir une chose très extraordinaire et qui est sans doute le propos le plus étonnant qui soit du peintre et du défi qu'il relève. Il explique que les peintres ont une chance folle. Ils veulent peindre un bateau, ils peignent un bateau. Ils veulent peindre une maison, ils peignent une maison. Ils veulent peindre, etc. Et lui, non. Il n'a rien à faire du bateau, ni de la maison, ni de quelques objets de cet ordre. Ce qu'il veut peindre, c'est l'air qui est autour. Et c'est ça qui est finalement le modèle fondateur de la peinture de Monet. Et ça, cet air qui est autour, à l'évidence, c'est un air normand.
Jean Cortot, qu'est-ce que vous pensez de cet air qui est autour, cher à Monet, là, de sa façon de peindre, de sa peinture?
Mais sa façon de peindre, il est évidemment quelqu'un de très talentueux dès le départ. Ils étaient nombreux. Finalement, il a commencé par peindre comme peignaient ses contemporains, mais avec son talent particulier. Mais j'ai le sentiment que très vite, il y avait quelque chose qui ne le satisfaisait pas. Il avait envie d'emmener dans un système qu'il préparait quelque chose qui était l'apanage de tous ses contemporains. Et petit à petit, c'est ce qu'il a fait, me semble-t-il. Et je vois, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être une idée trop constructiviste que j'ai, mais qu'il a dirigé vers une volonté de faire une œuvre plutôt que des peintures, et que c'est ça qui a été finalement sa marche à l'étoile. Et finalement, qui a fait qu'il est aussi talentueux que beaucoup de ses contemporains, mais de ses contemporains du 19e siècle, et que dans le 20e siècle, il est là. Et que finalement, quand nous voyons, nous découvrons tout d'un coup Pollock et des tas d'autres, pourquoi pas Mathieu ou Riopelle, on trouve Monet quelque part, là. C'est peut-être une rêverie personnelle, je ne sais pas, mais c'est le sentiment que j'ai. Ça n'est qu'un sentiment, ce n'est pas du tout ni une découverte, ni, comme ça, un état de fait que je souligne.
Donc un peintre du 19e, qui est aussi, et qui est probablement, presque, on pourrait dire, un peintre du 20e aussi, ou peut-être le peintre du 20e, pour qu'en 2010, ça suscite un tel engouement, une telle rencontre entre un public et
une peintre. Il est un des peintres du 20e siècle les plus importants qui soient.
Voilà.
Et ce qui
Pascal Bonnefou.
Est fascinant avec lui, c'est que quand commence le 20e siècle, il se trouve que l'impressionniste qu'il est encore mal vu, si j'ose dire. Hein, même si, heureusement, Durand-Ruel a eu la bonne idée d'aller vendre des peintures.
C'est son marchand.
De Manet, c'est son marchand, exactement, du côté des États-Unis. Hein, et que, à l'évidence, sans les dollars américains, pas de fin d'histoire de l'impressionnisme. Il serait mort de faim. Et donc, ils auraient disparu. Hein. Et Durand-Ruel n'aurait pas eu d'autre choix que de déposer son bilan et de faire faillite. Bon. Et donc, quand commence le XXe siècle, ce qui est extraordinaire avec lui, c'est que, et là, Monet est intraitable avec ce que tu évoquais, son système, entre guillemets, sa démarche, son défi qu'il s'obstine à vouloir relever, c'est que dès 1886, il y a un petit jeune de peintre qui s'appelle Seurat, qui est venu, soi-disant, lui donner une leçon, en disant, mais eh oh, il y a la théorie de Chevreul, et il faut les points qui fassent que, etc. Bon, et il y est parfaitement indifférent, alors qu'autour de lui, un homme comme Pissarro succombe à la tentation, hein, et va se mettre à faire des peintures à la Seurat, avec la même technique. Et puis, on progresse. Et il va y avoir l'entrée en scène des nabis. Il va y avoir l'entrée en scène, bientôt, des fauves. Il va y avoir l'entrée en scène du cubisme. Et tout ça, c'est le début du XXe siècle qui va rentrer en scène aussi dès les années 1910, l'abstraction, lui indifférent à tout ce qui se passe et qu'il voit nécessairement quand il va rue Lafitte, qui est la grande rue des galeries parisiennes de l'époque. Il ne peut que le voir, il ne peut que le constater, la rigueur, la, j'allais dire presque la force d'obstination qui est la sienne, fait qu'il poursuit son œuvre en dépit des coups de boutoir que les jeunes peintres portent à la démarche qui pourrait être la sienne. Il est devenu intraitable. Et il a, à cause de ça, ou grâce à ça, une puissance de développement de son œuvre qui est incomparable.
Jean Cortot parlait de sa marche aux étoiles. Est-ce que le thème de l'eau a été, qui est permanent dans son œuvre et dont vous, sur laquelle vous aviez écrit, serait justement le moteur de cette...
Je ne sais pas si c'est le moteur, mais en tout cas, c'est le plus somptueux des guides qui soit.
C'est un fil conducteur.
Exactement.
De son œuvre.
Je vous explique. Enfin, j'ai essayé de comprendre, parce que tout vient... La réflexion que m'a fait un jour un peintre, et pas n'importe quel peintre, j'ai pour lui une admiration sans réserve, André Masson. Qui m'a donc donné, j'étais gamin, l'injonction, l'ordre, pas question de dire non, d'aller à l'orangerie et d'y voir, me disait-il, qu'on ne sait pas très bien si là, la peinture commence ou si la peinture finit.
Et ça, c'est important.
Extraordinairement important. Et j'ai mis des années et des années à ne pas comprendre ce qu'avait voulu dire André Masson. J'ai été voir à l'orangerie, je suis retourné encore et encore. Bon, de quoi s'agissait-il? Quelle était, finalement, peut-être... la solution, comme donnait Masson, mais sans m'expliquer quel était le problème en amont de la solution. Et j'ai fini par croire comprendre ceci. Je vous le disais il y a un instant, Monet commence son œuvre avec pour motif la Seine, la Manche. Il la finit, 60 ans plus tard, avec pour motif le seul bassin de Giverny. C'est clair et c'est net. Or, pendant toute la carrière en question, entre la Manche, la Méditerranée, la Creuse, la Seine, l'Oise, les fjords...
De Norvège, la Tamise. Bon.
La Tamise.
Parce qu'effectivement, et Venise.
Le bassin de San Marco, à Venise, etc., etc. Il ne va pas cesser d'avoir pour motif la mer, le fleuve, la rivière, le bassin, etc. Et donc, c'est cette eau qui est extraordinaire à regarder. Parce qu'au début, c'est une eau... si je veux dire, elle fait son boulot d'eau. Hein, elle reflète. Et donc, on voit le reflet du bateau qui est posé dessus, etc. Et peu à peu, ce reflet se décompose, se diffracte. et il devient lui-même d'une chose extraordinaire. Il y a juste un indice de ça. Il y a, ce tableau est au musée Marmottan-Monet, une barque sur donc l'Epte, hein, qui est là. Et on ne sait plus sur quoi est posée cette barque. Est-ce qu'elle est sur l'eau? Est-ce qu'elle est presque sous l'eau? Qu'est-ce qui entoure la barque? Est-ce que ce sont des plantes qui poussent en dehors de l'eau? Est-ce qu'elles poussent au fond de l'eau? On ne sait plus. Il n'y a plus de repères. Et plus on avance, moins il y a de repères. C'est-à-dire que cette eau qui était, encore une fois, une eau de reflet, devient une eau d'apparition. On ne sait plus ce qui est là. C'est quelque chose qui pousse dans l'eau? C'est quelque chose qui se reflète sur l'eau? Est-ce que c'est un nuage? Est-ce que c'est l'indice d'une éclaircie? Et c'est ça qui fait que l'eau de Monet, elle va conduire, si j'ose dire, de ce qui est l'eau fondamentale de l'histoire de la peinture jusqu'à la photographie, autrement dit, la métaphore de Narcisse qui se regarde dans une eau, hein, et puis qu'à la fin, pas du tout. L'eau en question, Narcisse vient de se noyer, Narcisse meurt dans cette eau-là, et c'est une eau qui devient celle, justement, d'apparitions qui n'ont plus aucun compte à rendre à quelque prétexte, quelque objet que ce soit.
Jean Cortot, cette apparition, cette quête de l'apparition dans la peinture, c'est ce qu'il cherche, Monet. Est-ce que c'est une quête de la beauté aussi, de la beauté du monde?
Là, je ne sais pas quoi répondre à ça, parce que c'est une question qui se dépasse elle-même. C'est des tas de questions en une seule, hein. Alors, ce que je ressens de tout ce que tu viens de dire, je comprends, mon cher Pascal, tout ça, parce que c'est le fil de l'eau conducteur. Il y a ça, mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui est d'un ordre, puisqu'il en est arrivé à, disons, à l'abstraction. Et les derniers paysages de Giverny, on ne peut pas y reconnaître ni la maison, ni le jardin, tout ça est un embrouillamini extraordinaire qui est devenu une chose complètement... C'est devenu presque du draping, d'une peinture draping. Il n'y a que de la couleur, il n'y a plus d'air, il n'y a plus de nuages, il n'y a plus de soleil. Il y a une espèce d'énorme construction destructive de la réalité et qui crée finalement peut-être cette espèce de... Ce que je vois, c'est une espèce d'emprisonnement dans la peinture pour constituer une œuvre qui soit dégagée, finalement, de toute espèce de nécessité de duplication de la nature au premier degré. C'est-à-dire que c'est une marche, ce que je disais, l'étoile, c'est une marche à la peinture, à une espèce de peinture pure, où ce qui est dit est ce qui est dit en soi-même. Donc c'est quelque chose d'abstrait au sens technique pictural, c'est de l'abstraction, mais c'est aussi quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de très mental, me semble-t-il. Je ne sais pas si j'en rajoute, mais je crois que c'est très mental, dans ce sens qu'il y a une chose qu'Arroyo m'a apprise, qui est que le peintre Saint-Aurin disait « Un peintre qui n'est pas éthique n'est rien ». Et je pense que la démarche picturale de Monet est quelque chose qui allait vers une espèce d'abstractisation de choses qu'il savait très très bien faire, mais qui finalement ne le concernait plus. Voilà. On ne l'intéressait plus au premier degré, au premier stade. Voilà. Je ne sais pas si j'exagère, si dis-moi que
Pascal
je me
Benafou.
Trompe.
Non, pas du tout, mais il faut tenir compte d'un paramètre historique qui n'est peut-être pas complètement indifférent. Monet, né en 1840, il a, si j'ose dire, un an de moins que la photographie, qui elle est née en 1839. Et il fait partie de la première génération de peintres qui vont être élevés, si je veux dire, avec la photographie. Or, le séisme qu'est l'apparition de la photographie dans l'histoire de la représentation est colossal. Ça fait depuis 4 siècles avant Jésus-Christ que les peintres sont convaincus, au même titre que les sculpteurs d'ailleurs, de ce que ces arts, que sont le dessin, la peinture, la sculpture, sont des arts d'imitation. Et voilà que n'importe quel photographe est en mesure de faire une imitation encore plus évidente et plus probante avec son petit appareil. Donc, là aussi, je crois que Monet est le premier peintre à avoir pris conscience pleinement. Cézanne, c'est d'une autre manière la même chose. Hein. Et d'ailleurs, ils se regardent du coin de l'œil. Ils s'admirent l'un l'autre, mais ils se regardent du coin de l'œil. Et Monet sait pertinemment bien que le grand paysagiste auquel il doit tenir tête, c'est Cézanne. Et Cézanne a le même type de sentiment. Donc, de quoi s'agit-il? C'est qu'ils ont parfaitement conscience, l'un comme l'autre, de ce que la peinture, elle se doit nécessairement d'aller au-delà de cette imitation qu'a déterminée Aristote. Hein, et que, il faut passer à autre chose.
C'est comme ça qu'il en arrive à ses séries aussi.
Exactement.
C'est pour dépasser cette imitation, justement.
Exactement. Ce sont d'autres démarches. Et que du même coup, c'est avec l'un et l'autre que véritablement l'un des grands soucis de la peinture qui a été ô combien entretenu au XIXe siècle est le sujet est complètement évacué. Parce que alors là, le sujet, qu'on prenne, si j'ose dire, trois pommes, quatre nénuphars ou autre, ça n'a plus aucune importance. Hein, aucune. C'est, voilà. Et donc, entre pouvoir se défaire de l'imitation avec ce que ça implique à cause de l'entrée en scène de la photographie, d'un côté, et d'autre part, se défaire du sujet et de la dictature du sujet, c'est là encore une des grandes prouesses de Monet. Hein, parce qu'il a eu à cet égard, dans un domaine comme dans l'autre, un courage extraordinaire.
C'est la force de son œuvre, c'est là du courage. Jean Cortot parlait d'éthique. Monsieur Cortot, qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
Ce n'est pas une preuve de talent matériel qui est un des données, c'est tout d'un coup une explication de quelque chose qui est inexplicable, mais où il faut aller tenter de chercher une possibilité.
C'est pas un hasard, c'est justement André Masson a parlé de l'orangerie comme étant une sorte de Sixtine de l'impressionnisme.
Voilà.
Donc il s'agit, et pour cause, de spiritualité.
Ouais. On peut imaginer que Masson, justement, qui a écrit sur Monet, n'appartenait pas à la même chapelle. Mais il sentait tout d'un coup qu'il se passait quelque chose. Masson, qui était un homme, justement, c'était un homme très doué, mais c'était quelqu'un de très intelligent, qui avait une culture extrême, une perspicacité d'esprit très grande, et qui a compris ça tout de suite. Qui a compris qu'il trouvait quelque chose, une échappatoire à l'empêchement d'être un peu plus ou un peu aller vers un peu un ailleurs.
Pascal Bonafou, cette voie vers l'abstraction qu'a ouverte en fait Monet par la force de son œuvre, surtout sur la fin de sa vie. Comment est-ce que aujourd'hui, les artistes d'aujourd'hui sont les héritiers de Monet? Ils le sont forcément, hein, mais est-ce que certains se revendiquent directement de Monet? Je parle des jeunes générations d'aujourd'hui dans le monde des arts.
Ah justement.
Comment les artistes d'aujourd'hui
regardent Monet?
Oui, ou s'en sont emparés? Ou le relisent, ou quelle relecture font-ils?
Alors, d'une part, je redoute que la célébrité de Monet qui se transforme en magnète pour porte de réfrigérateur, qui se démultiplie en poster, a failli, parce qu'il n'y a plus la matière picturale extraordinaire qu'il y a quand on regarde les Monets.
Faut voir les œuvres.
Et pour cause, mais ça c'est le propos de toute reproduction, qui est un fer à repasser qui écrase tout. Passons.
Sans compter le détail,
bien
ça,
sûr.
C'est dramatique.
Et donc, j'ai peur que la célébrité extraordinaire de Monet fasse que, du même coup, il soit, aux yeux de certains artistes, dévalorisé, comme étant un artiste qui est, entre guillemets, devenu trop facile. Hein. Monet, il est devenu aussi, entre guillemets, toujours banal que le sourire de la Joconde à laquelle on a envie de faire des pieds de nez. Hein. Mais la Joconde continue à sourire, parce que, comme disait Malraux, elle s'amuse toujours et elle sourit toujours parce que tous ceux qui lui ont collé des moustaches sont morts. Donc ça simplifie les choses. Mais donc, je redoute ça. C'est que la popularité de Monet en fasse un artiste qui ait cette réputation d'être facile, ce qui n'est pas le cas. Et que donc, on s'en détourne. Ajouter à ça un autre problème extraordinaire de l'art contemporain, c'est que l'art contemporain est devenu événementiel. Or, Monet, c'est le contraire de l'événement. Monet, il l'exige, et c'est implacable. On ne peut pas, un exemple, visiter l'orangerie. Les deux salles ovales de l'orangerie, au rythme d'une visite touristique, on passe, on fait un tour, on passe dans la deuxième salle, on fait un tour, et hop, on sort, fini. Hein ? Pas du tout. C'est l'un de ces lieux qui appelle, qui exige, qui impose qu'on prenne place, qu'on s'assoie, qu'on regarde, et qu'on soit emporté par ce qui est le propre de toute peinture exceptionnelle. Par une sorte de méditation dont on ne sait pas très bien où elle va vous mener. Et malheureusement, Monet, avec cette œuvre extraordinaire que sont donc ces grandes décorations, puisque c'est le nom qu'il a donné à ces œuvres-là de l'orangerie, il est aussi, d'une certaine manière un peu, le point final d'une certaine exigence de la peinture, qui est justement cet appel à la méditation, cet appel au songe, à la rêverie, etc., etc. Parce que, et depuis quelques années c'est le cas, notre monde est dans l'urgence, la précipitation, l'immédiateté. Et Monet, c'est le contraire de l'urgence, de la précipitation et de l'immédiateté. Et je crains aussi que ce soit une des raisons pour lesquelles, le marché de la photographie prend une telle expansion par rapport au marché de la peinture. Je le soupçonne, enfin, c'est une crainte, mais je ne peux pas avoir de certitude et pour cause à cet égard.
Alors il y aurait donc plusieurs Monets pour plusieurs publics. Qu'est-ce qui pourrait les fédérer?
Monet...
Qu'est-ce qui ferait son exception?
Mais justement, d'abord, vous savez, comme c'est une chose très extraordinaire. Il y a des années de ça, pardonnez-moi, c'est une petite digression. Il y a eu, et l'exposition avait lieu à Barcelone, si mes souvenirs sont bons, une exposition sur les derniers, et suivait un certain nombre, Titien, les derniers Cézanne, les derniers Monet, les derniers, etc. Et on s'aperçoit d'une chose, grâce à une exposition de cet ordre, fabuleuse, étonnante. C'est comment un peintre... Plus il prend de l'âge, plus les années passent, s'invente une jeunesse picturale. C'est fascinant. Et donc, l'exposition en question révélait une chose. Et je dirais qu'on pourrait faire la même chose avec, justement, Monet. C'est montrer comment l'exigence intraitable qui est la sienne, et aussi bien son fils Michel que sa belle-fille Blanche ont assisté dans l'atelier à des autodafés terrifiants. Il se trouve donc que cette exigence implacable qui est la sienne et qu'il entretient année après année, elle va être à l'origine de ce qui est, à mes yeux, fascinant. C'est que les toiles de Monet, quand il a 80 ans et des poussières, sont celles d'un jeune peintre, avec la fougue, l'enthousiasme, le culot qu'on peut avoir à 20 ans. Alors que les toiles qu'il fait à 20 ans, elles sont encore... pour certaines, presque conventionnelles. Quelle que soit, entre guillemets, une fois de plus, la distance qu'il va prendre avec la peinture officielle de l'époque. Mais elles sont, avec certains repères clairs, nets, précis, avec des catégories auxquelles on peut se reporter, très bien. C'est plus le cas à la fin. Donc, si je veux dire, Monet fait partie, comme ce peintre chinois qui s'appelle Shi Tao, de ceux qui inventent leur jeunesse au fur et à mesure qu'ils avancent en âge et qu'ils inventent leur peinture. Ça, c'est peut-être une des grandes leçons de Monet. Si vous vous teniez à tout prix à en prendre une, à en tirer une, c'est l'apprentissage de la jeunesse qui, pour Monet, commence à, soyons clairs, à 80 ans.
Jean Cortot ?
Est-ce que je ressens ?
Est-ce qu'on est tout d'un coup habité par des forces nouvelles, l'âge venant, quand il y a déjà une œuvre qui est là, il y a une nouvelle énergie ?
Oui, c'est évident, mais Monet est exemplaire sur tout ce que tu as dit. Je souscris complètement à ça. Je trouve que c'est très essentiel, mais c'est parce qu'il a, il a abandonné certaines, tu disais tout à l'heure, enfin, une espèce de besoin de réalité. Je ne sais pas s'il a abandonné ça au photographe ou à qui, mais en tout cas, il ne se l'est pas du tout lui-même. Il ne s'est rien interdit, mais ça ne l'intéressait plus. Et finalement, c'est comme... Ça peut être comme le goût des voyages, ou peut-être que ou l'âge, tout d'un coup, fait qu'on se dit, mais pourquoi aller là, etc. Il vaut mieux chercher où suis-je, qui suis-je, enfin, de faire des espèces de voyages immobiles.
Il était complètement libéré aussi, à la fin de sa vie, de tout souci financier, la reconnaissance
était là. Tout à fait, mais il a cette chance d'avoir été accompagné pendant toute sa vie le marchand qu'est Paul Durand-Ruel. Il faut se souvenir quand même d'une chose qui est fondamentale. C'est qu'en 1870, quand il y a la guerre, Monet, qui vient d'avoir un enfant, son premier fils avec Camille, fait le choix de l'exil, parce qu'il ne veut surtout pas se retrouver tué peut-être par cette guerre. Donc il part pour Londres. Et là, chance dans la rue, j'imagine, au bord de la Tamise peut-être, on n'a pas l'information, d'Aubigny les croise, lui et Pissarro, et... les emmène chez ce jeune marchand de tableaux qui lui est parti avec sa réserve de tableaux parce qu'on n'est jamais assez prudent, qui s'appelle donc Durand-Ruel. Il a une quarantaine d'années et d'Aubigny les présente, Pissarro et Monet, et dit à Durand-Ruel, achetez-les. Bon, et il achète. Et à l'époque, personne ne connaît Monet. Personne. Et le grand scandale de l'impressionnisme de 1874, c'est pour cause 4 ans plus tard. Donc personne, inconnu. Daubigny, avec beaucoup de générosité, lui dit « Écoutez, si vous n'arrivez pas à les vendre, » il dit ça donc au marchand, qui est Durand-Ruel, « moi, je vous les rachèterai. » Très bien. Bon, mais au moins, c'est recours. Hein. Bon. Et avec une fidélité, avec un courage, avec une obstination sans comparaison aucune, il va inventer le marché de l'art, d'un côté, et il va les soutenir, les aider, les accompagner, quitte à faire des dettes extraordinaires, avec entre autres l'Union bancaire qui va déposer son bilan et qui va faire faillite, d'où la contrainte dans laquelle il va être de partir pour les États-Unis avec 350 toiles qui l'emmènent. Il se trouve donc que sans Durand-Ruel, il n'y a pas d'impressionnisme, et en particulier pas de Monet. C'est Durand-Ruel qui, imaginez, en 1883, quand il quitte Pontoise pour s'installer à Giverny, il a si peu d'argent qu'il est obligé d'écrire un petit billet vite le matin à Durand-Ruel. On aurait besoin de 100 francs ou 200 francs.
J'ai ah oui, c'est terrible quand on lit votre biographie. Voilà. On souffre pour Monet. Hein.
Parce que sinon, on va nous saisir les meubles. C'est terrible. Hein. Et en effet, à partir des années 1886-87, les toiles vont commencer à se vendre à des prix très décents, très corrects. Et puis bon, les prix vont augmenter.
Donc
pour
il
cause,
sera libéré hein, bon. De ça.
Donc il va être libéré de tout souci. Et du coup, il est évident qu'à partir de ces années 86-87, hein, sur, bon, Monet va avoir et son jardin, et son territoire, et la manière dont il organise, et donc du coup, une liberté absolue pour développer, encore une fois, cette rigueur, j'allais dire presque cette obsession picturale qu'il a rêvée et qu'il va mettre en chantier, qu'il va réaliser.
Qu'est-ce que ça vous a fait, à vous, Pascal Bonafou, et puis aussi à Jean Cortot, de voir ces toiles cette année réunies du monde entier qu'on n'avait pas vues les unes à côté des autres, ou que même Monet n'avait pas forcément vues, puisqu'elles s'étaient parties, échappées, et au cours de l'histoire. Qu'est-ce que votre œil de spécialiste pour vous, Pascal Bonafou, quelles ont été vos impressions?
C'est que j'ai découvert, et au musée Marmottan-Monet, et au Grand Palais, et au musée des Beaux-Arts de Rouen, pour ne citer que trois grandes expositions, il y avait entre autres à Rouen 11 cathédrales qui étaient rassemblées, avec là, au musée Marmottan-Monet, des œuvres qui, me semble-t-il, n'étaient que rarement, ou en tout cas pas à ma connaissance, sorties des réserves de ce musée.
Oui, bien sûr. Ben, c'est la première fois qu'ils
étaient
tous
montrés. Mmh. Hein, d'avoir découvert au Grand Palais des œuvres de Monet qui viennent de tel petit musée américain ou de telle collection privée, qui que, etc.
De
que
Madrid,
et
de
pour
Saint-Pétersbourg,
jamais
de
vu,
collectionneurs hein.
Donc, c'est vrai que tout à coup, ce qui est merveilleux comme expérience quand on est face à l'ampleur d'une œuvre, la puissance d'une œuvre comme la sienne, c'est que Monet, d'abord, en ce qui me concerne, me permet, si j'ose dire, d'éprouver une sorte de plénitude pour le plaisir de regarder de la peinture dans tous les sens du mot, hein, première chose. Et puis deuxième chose, pour ce qui me concerne, c'est cette extraordinaire invitation à l'humilité et à l'exigence. L'humilité parce qu'on n'est jamais fini de le regarder, et l'exigence parce qu'il impose un effort du regard qui est pour autant un sublime plaisir.
Jean Cortot, quelles ont été vos émotions lors de ces visites?
La question que vous aviez posée, qu'il semblait, cette exposition était une très vaste exposition, ça c'est vrai, mais son œuvre est encore beaucoup plus vaste. C'est quelqu'un dont on peut aller chercher. On aurait pu montrer plusieurs Monets différents. Et finalement, peut-être qu'une partie de l'intérêt est que justement, c'est difficile de faire une espèce d'addition de ces. Parce que ce sont des additions de qualité. Et les qualités peuvent. C'est une question d'organisation. Alors finalement, je crois que c'est une visite de l'ensemble et d'aller lui dire « vous avez eu raison d'agir comme ça », en allant vers la fin, vers les résultats finaux, qui continuent, qui sont une projection dans l'avenir.
Bon, merci messieurs.
Merci à vous.
Merci.